Vive Pédale Dure, enfin veuve, aussi belle qu'espiègle, elle a su marquer les esprits et les cœurs de nombre de grandes comédies françaises. Sa carrière est également marquée par un légendaire duo, celui qu'elle forme avec Pierre Palmade, car comme ils l'ont si bien dit, ils se sont bien aimés. Michel Larocque est avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour Michel Larocque.
Et bonjour Anne.
Alors dans encore un instant, vous jouez le rôle d'une actrice adulée du public, oui. Ce qui est aussi votre cas. Ce rôle, ce n'est pas un peu une mise en abîme? Oui, c'est l'instant Télérama.
Non, c'est une actrice comme je ne le suis pas, en fait. Le personnage adore le faire, d'ailleurs, parce qu'elle est actrice jusqu'au bout des doigts et dans sa vie privée aussi, puisqu'elle est mariée, elle était mariée, en tout cas, à un réalisateur, metteur en scène, et que, voilà, elle a toujours été actrice tout le temps dans sa vie, ce qui n'est pas du tout mon cas.
Vous êtes inspirée de quelqu'un pour composer le rôle?
On a tout en nous, hein, donc c'est peut-être quelque chose que je refusais un peu, et là je m'éclate à le faire sur scène. Ouais.
Donc une femme un peu prétentieuse du coup.
Elle n'est pas prétentieuse là, elle est simplement avec ses fragilités, elle s'autorise à être fragile, voilà. Ça, c'est
alors,
assez génial.
L'histoire, c'est une femme qui vit une magnifique histoire d'amour avec son mari joué par François Berléand, dont la particularité est d'être mort. C'est
ça. Oui, il a eu un accident.
Et non
ouais.
pas de faire le mort comme la moitié des mecs sur Tinder.
Ou pendant l'amour.
On comprend au fur et à mesure qu'elle est la seule à le voir, à l'entendre. Il n'a pas trop fait la gueule, François Berléand, quand on lui a dit que dans la pièce, il serait transparent.
C'est-à-dire que j'adore lui dire, tu as une vue de l'esprit, en fait. Mmh. Il faut que tu le saches, voilà. Si j'ai envie que tu ne sois pas là, tu ne seras plus là. Donc j'aime bien avoir ce petit pouvoir, quand même, sur lui. Mais c'est vrai que c'est une très, 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 très belle histoire d'amour. Là, j'ai vu pas mal de gens qui sont venus en couple et qui sont très émus parce que, en fait, elle ne peut plus vivre sans lui. Voilà. Il a eu un accident 10 mois auparavant et elle le crée. Elle recrée la vie qu'elle avait avec lui. Et je pense qu'il était très drôle. Donc, comme elle est très malheureuse, elle a encore plus envie de rire. Donc, ça rend François très, très, très drôle dans tout.
C'est un récit entre Ghost et Sixième Sens, en fait.
Oui, mais ce n'est pas un fantôme. C'est juste elle, c'est une création.
Son imagination.
Ah mais ouais. Vraiment, oui. Et donc, en fait, c'est ce qu'il dit, elle le pense aussi. Enfin, c'est un petit peu... c'est très amusant à jouer.
Alors, on l'a dit dans cette pièce, Michel Larocque, vous êtes une actrice adulée. Mmh. Ce personnage vous ressemble?
Non, pas du tout. Parce qu'elle est tout ce que j'oserais pas faire, en fait. Enfin, je veux dire, dans la façon d'être actrice.
De faire des caprices.
Oui, et puis voilà.
Elle se regarde.
Elle a été. Non, elle se regarde pas tellement. Elle se regarde dans le regard de son mari, en fait. C'est pour ça aussi qu'elle a besoin de lui. Mais je pense que quand il est tombé amoureux d'elle. Lui, ça a été son Pygmalion. Et quand il est tombé amoureux d'elle, il est tombé un peu amoureux aussi de sa capacité à elle, à avoir beaucoup de succès, à séduire, à plaire. Donc, elle continue de plaire en hommage à son mari. Et donc, ils ont un jeune voisin qui est l'ami de leur fils, qui est fou amoureux d'elle. Après, il y a un auteur qui est joué par Yonel Abelansky. Le voisin, c'est Vinnie Dargo. L'auteur est fou amoureux d'elle depuis des années. Enfin, voilà. Et elle fait semblant
de...
Elle a besoin de ça. Mais pour lui.
Ouais,
pas tellement pour elle.
Quoi.
Je crois pas que ce soit pour elle. Ouais. Je crois que c'est pour lui, parce que ça a marché comme ça, le couple. Et justement, elle n'arrive pas à rejouer sans lui et quand à un moment donné le personnage de Berléand va lui expliquer ce qui les a liés et pourquoi et comment leur amour se nourrissait de l'amour du public, c'est là où justement tout s'éclaire et on
tout prend sens.
Voilà. Oui. Par exemple, dans la pièce, ça parle quand même de la vie dans tous les sens du terme et avec justement ces moments un peu difficiles ou ces moments très drôles, etc. Et quand on a compris ça. Alors, ça peut être à n'importe quel âge, mais c'est sûr que quand on a un certain âge, on comprend mieux la vie qu'avant, et ce qui s'est passé.
Moi, j'ai 25 ans.
Oui, c'est ça, donc vous ne pouvez pas comprendre. mais du coup, il y a un moment de partage essentiel avec le public, enfin, je veux dire que je n'ai jamais connu sur scène.
Ah oui, parce que, avec cette pièce-là?
Oui, parce qu'à un moment donné, il y a un moment très fort et on est ensemble avec le public comme je n'ai jamais connu ça. Et d'ailleurs, ça se confirme quand je les croise et quand on en parle. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique parce que c'est pour ça qu'on fait ce métier, exactement pour
ça.
Pour
le partage.
Oui, pour le partage et puis pour transmettre des émotions qu'on a en lisant un texte. On lit un texte, je reçois cette pièce, je la lis, je suis pleine d'émotions, de rire comme des émotions plus graves. Et puis après, on se rappelle de ces émotions-là, on fait un travail pour justement transmettre à ce moment-là ça avec le public, puis quand ça parle de la vie, mais que tout le monde connaît, enfin, je veux dire, ces moments-là, je pense que c'est très agréable de vivre ça avec le public.
Votre mère, Michèle Larocque, était danseuse d'origine roumaine et votre père directeur d'un laboratoire pharmaceutique. C'était un peu le choc des cultures.
Quoi, donc, entre eux deux?
Oui.
Oui, mais enfin, elle faisait des études aussi. Hein. Elle a terminé prof de fac à Nice. Hein, donc, elle était universitaire aussi. Danseuse, c'était, et violoniste, c'était parce que le régime... c'était avant, mais c'était pas pareil. Ils pouvaient pas voyager, ils pouvaient pas sortir de leur pays, et c'était le moyen de sortir. Elle faisait des tournées, et c'est comme ça qu'elle s'est échappée.
Votre mère vous a donné une éducation à la roumaine.
Ah ouais.
Donc vous faisiez du sport, de la danse,
mais tout le temps.
À haut niveau, c'est-à-dire
tout le temps.
Que avec des gens très très
d'abord,
bons.
D'abord, pas au départ, c'est pas à haut niveau, c'est juste des cours. Mais sauf que t'as tes copines qui vont à des petits goûters ou des machins. Et moi, je pouvais jamais parce qu'il y avait cours de danse, cours de d'équitation, cours de tennis, cours de machin. Bref.
Elle vous mettait qu'avec des champions parce que les filles avec qui vous avez pris des cours de danse sont devenues danseuses.
Mais oui, mais elle a pas fait exprès. C'est moi qui me suis retrouvée avec les meilleurs. C'est-à-dire que par exemple, à mon club de tennis. Il y avait Noah qui venait d'arriver, il avait 12 ans, ils faisaient tous tennis études et ils ont tous mes copains, et je faisais partie de l'équipe alors que vraiment j'avais pas du tout le niveau, tous mes copains de l'équipe du LTC à Nice sont devenus l'équipe de France de tennis. Quand j'allais skier à Oron, mes copains, c'était l'équipe de France, ils sont devenus l'équipe de France. Donc j'ai ramé toute mon enfance. C'est-à-dire, je poussais les bâtons pour qu'ils m'attendent un peu quand même. Ou
vous voulez pas venir un peu dans notre équipe, un peu, pour avoir des chances.
Vous sentiez nulle, en fait.
Je me sentais pas la meilleure, ça c'est sûr.
Et en danse, c'était pareil. C'était
en danse, ils passaient les concours de Lausanne. Donc je me suis retrouvée avec des filles qui voulaient être danseuses. Je faisais beaucoup de danse, parce que c'était 8 heures par semaine. Et j'adore ça d'ailleurs, mais je voulais pas être danseuse. Mais en fait, ce qui est génial, c'est que ça m'a donné, ça m'a obligée à être bonne en tout, parce que j'étais obligée.
Ça vous a appris le travail.
Mais ouais.
Ah ouais, ça
ouais. Ah ouais, mais la danse, ça apprend.
Après, vous avez un grave accident de voiture, oui. Et là, tout s'arrête, et vous avez le fémur en 18 morceaux.
Oui, en 18 morceaux, le pied.
On a failli vous amputer même, c'est ça.
C'est-à-dire que, alors, c'est l'humour qui m'a sauvée, parce que quand je me suis réveillée. J'ai fait rire des infirmières qui étaient là. J'ai dit des bêtises et ça leur a plu. Et je devais aller à un étage où le chirurgien n'y connaissait rien dans l'orthopédie, dans les os, et qu'un fémur en 18 morceaux, tu peux dire aussi, on est obligé d'amputer.
Wow.
Et il y avait un jeune chirurgien qui sortait de l'école qui était exceptionnel. Et il y en a une qui a bloqué, quand on a voulu me faire rouler le lit pour aller à l'autre étage, il y en a une qui a bloqué le lit, qui s'est mis devant le lit, l'autre qui a couru avec la radio de mon fémur devant ce jeune chirurgien, pour la montrer à ce jeune chirurgien qui a dit « je me porte volontaire » et je l'opère le lendemain et il m'a sauvé la jambe.
Et vous l'avez retrouvée, cette infirmière qui a bloqué
Bien sûr, de toute façon, après, elle était de nuit, j'ai passé des nuits blanches parce que je suis restée longtemps à l'hôpital, restée un an sans marcher, mais là, je suis pas restée pendant un an là, mais je suis restée 6 mois, et je faisais des nuits blanches parce qu'elle était très très sympathique, et l'aide-soignante aussi, c'était...
Et ce chirurgien
Ce chirurgien merveilleux, malheureusement, a eu un problème, a eu une tumeur au cerveau, et il est décédé très... peu de temps après, c'est incroyable. Mais il a été extraordinaire. Mais il était très en colère contre moi parce qu'il croyait que c'est moi qui conduisais. Alors j'étais passagère, mais je sais pas pourquoi. Alors du coup, il m'engueulait tout le temps. Puis j'avais ma meilleure amie qui venait, mon amie d'enfance, et qui s'asseyait sur ma jambe. Enfin, elle est un peu Gaston Lagaffe. Et puis ou alors j'étais en fauteuil roulant, elle me poussait. Puis et lui il regardait ça, il voyait que j'allais en fauteuil roulant un peu trop vite. Il me menaçait de me mettre des trucs extérieurs. Il me disait il savait plus comment me rendre calme. Ouais. Exactement. Mais
cette infirmière vous a sauvé la vie.
Elle m'a sauvé la vie. C'est extraordinaire quand même les rencontres et les et puis elle a égayé. Et puis il y avait par exemple, ils sont merveilleux. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'amour pour les gens qui travaillent dans les hôpitaux parce que ils transforment tout. Il y avait un jeune interne qui nous avait reçus le jour de l'accident. On était 3 jeunes à arriver dans un très sale état. L'ami qui conduisait la voiture, et puis un garçon qui malheureusement allumait une cigarette devant l'arbre où on s'est écrasé contre un arbre. Et donc, tout le monde était vivant, mais on était trois jeunes dans un très, très sale état. Et donc, cet interne s'est affolé parce que c'était le seul de garde. Et il a appelé tous ses copains, au secours, venez vite, ah ouais. venez vite. Et, bon. Et lui, il est venu me voir tous les jours, même quand il ne travaillait pas. Tous les jours, pour me, parce qu'il savait que j'étais sportive, pour me parler du windsurf, pour me parler du tennis. Moi, j'avais mes copains, justement, d'enfance qui étaient à Roland-Garros, parce qu'il y avait Roland-Garros. J'ai eu l'accident en mai, qui me faisait des petits signes, enfin, je leur disais, je vous regarde jouer. Enfin, voilà. Et tout ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Et puis surtout, c'est pour ça que je n'arrive même pas à le regretter, c'est ce moment-là, parce que c'est grâce à cet accident que j'ai su que je voulais être comédienne, parce que je ne l'avais jamais, conscientisé. Ah, du tout.
Ça a changé votre vie?
Ben oui, il y a eu avant et après. J'étais en fac de sciences éco et d'anglais, et puis ensuite, quand j'ai remarché, je suis retournée. Et puis... ma mère m'avait entendu dire ça hein, quand je m'étais réveillée de la petite inconscience. Je voudrais être comédienne, ça. Donc, elle faisait passer des oraux à la fac d'anglais, de lettres. Et il y a une fille qui lui a dit... Donc, elle les écoutait, elle voulait les faire parler parce qu'elle s'occupait de la phonétique. Et donc, une fille dit, moi, je voudrais être comédienne. Elle dit, ah bon, mais qu'est-ce que vous faites pour ça, tout ça en anglais, etc. Et elle lui dit, je prends des cours avec Julien Berthaud, conservatoire d'Antibes. Et je me souviens que je suis rentrée à midi déjeuner, parce qu'en province, on rentre déjeuner à la maison. Hein.
Ouais.
Non, mais c'est vrai, c'est un détail important. Et donc, elle m'a dit, tu sais, il paraît qu'il y a Julien Berthaud qui donne des cours au conservatoire d'Antibes. Je me suis inscrite là, j'ai appelé tout de suite. Et le soir, il y avait le premier cours. Et c'est pour la première fois de ma vie, j'ai senti que j'étais à ma place.
Wow.
Alors Michel Larocque, vous avez aussi fait vos débuts à la télévision dans l'émission La Classe, j'ai envie de dire en toute objectivité, comme tous les plus grands humoristes.
Ouais, c'est vrai qu'il était
en
aussi.
En toute objectivité, ah ouais, bien sûr.
C'est là que vous avez rencontré Pierre Palmade, comment ça s'est passé?
Non, je l'avais rencontré avant par Muriel, en fait.
Ouais. Et entre Pierre Palmade et vous, ça a été l'humour au premier regard?
C'est-à-dire que Muriel, je devais jouer une pièce avec Muriel qui s'appelait une adaptation que j'avais faite d'une pièce américaine, La face cachée d'Orion.
Moi je sais, j'avais été la voir.
Voilà. J'avais fait avec Claire Nadeau.
Ouais.
Parce que Muriel, entre-temps, je suis partie en vacances à rencontrer Pierre Palmade, qui lui a dit, je veux écrire pour... Enfin, ils ont écrit en deux secondes ce premier One Woman Show magnifique, quoi, du Tintamarre.
Oui, c'est ça,
Tintamarre. Et avant ça, il m'avait dit, j'ai rencontré un garçon fabuleux, viens le voir jouer. Donc, c'est comme ça que j'avais connu Pierre. Et je trouvais qu'il était fabuleux, sauf que je trouvais qu'il avait, j'avais déjà raconté ça, un regard très bizarre.
Ouais.
Dit, il ne peut pas du tout faire ce métier à cause de son regard, c'est bizarre.
Qu'est-ce qu'il avait louché, quoi ?
Il louchait pour ne pas voir le public.
Ah ouais ?
Pendant tout le spectacle, il louchait. Parce qu'il avait le trac.
Ah ouais.
Il voulait pas voir. Non, mais voilà, j'ai dit, il y a d'autres méthodes, tu sais, Pierre.
Et alors, il y a cette idée
et
de
donc,
couple, de duo.
Ouais.
Et alors, vous doutiez
ça,
quand même...
Ça, c'est après Pédale Douce.
Oui, vous doutiez du succès que ça allait engendrer. Il y a quand même eu 5 volets. C'est Star Wars,
non, mais ça, on a jamais...
Oui,
c'est ça, voilà. On n'a jamais pensé à ça.
Un sixième en préparation. Parce qu'ils s'aiment, ils se sont aimés, ils se re-aiment. Ça va être quoi? Ils s'aiment encore, mais pas trop, mais un peu quand même.
Non, mais je crois que là, maintenant, ça y est, on est allé au bout. Mais c'est vrai que le premier... Donc, je tournais Pédale Douce. Il avait écrit les dialogues et... En tant qu'auteur, il est venu me dire « J'aime beaucoup comment tu dis mes dialogues. »
Ah ouais,
Pierre. Et donc, il me dit « Est-ce que tu veux qu'on fasse quelque chose ensemble ?» Et moi, je croyais un film.
Ouais.
Et en fait, il me dit « Non, non, un spectacle. » J'ai dit « Ah oui, si on faisait sur le couple, évidemment. Ouais. » C'est ma lubie. « Ah oui, oui, oui. » Et puis Muriel a dit « Ah oui, mais moi, alors, à ce moment-là, j'écris avec Pierre et puis je vous mets en scène. » Et voilà. Et ça a été dément. Hein. Ça a été vraiment quelque chose d'important parce qu'on a passé... En permanence, mais on a passé énormément de temps ensemble.
Ah ouais.
Sur 4 spectacles, 4 tournées.
Vous dites que c'est votre frère, Pierre Palmade?
Ah ouais, c'est mon frère, ouais. Ouais.
Votre
il
petit
est
frère.
Turbulent, hein, mais...
Et vous arrivez à l'apaiser quand il est inquiet?
J'essaye, mais quand il est vraiment très turbulent, je ne peux rien faire. Mais je l'apaise avec l'amour que j'ai pour lui. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre?
Je vous présente quelqu'un qui a quelque chose à vous proposer, Michel Larocque, c'est Ben H.
Ouais, oui, j'étais sur l'amour. Michel Larocque, je suis très heureux de vous avoir en face de moi. Actrice, comédienne, le théâtre, le cinéma, 30 ans de films, de téléfilms et de scènes. Réalisatrice également, hein, maintenant, avec le film Brillantissime, un très chouette film, Michel Larocque, je tenais à vous le dire, ainsi qu'un très bon titre. hein, brillantissime, que je vous piquerai sans doute à l'heure d'écrire mon autobiographie. Alors, nous n'avons pas été bien présentés, Michel Larocque, hein, donc Ben H, chroniqueur, mais aussi surtout grand dramaturge, enchanté. Alors, j'écris avant tout des pièces de boulevard, des vaudevilles. Vous avez peut-être entendu parler de ma dernière création, baptisée Ma maîtresse est cachée dans mon slip, une comédie douce amère autour de la chute du mur de Berlin. Et si je suis si heureux de vous rencontrer ce midi, Michel Larocque, c'est justement parce que j'aimerais beaucoup vous avoir avec moi dans mes prochaines créations. Hein, je vous en prie, contenez votre joie. Quand je dis mes créations, c'est parce que en fait, j'ai un gros projet, voilà, de trilogie. Je peux pas trop vous en dire. La dernière fois que j'ai balancé une idée à l'antenne, Alexis Michalik qui a écrit Edmond. Donc depuis, je fais quand même hyper gaffe. Tout ce que je peux vous raconter, Michel, c'est que ce serait en fait l'histoire d'un couple dont on suivrait les aventures à travers différents sketchs.
Ah oui.
On pourrait imaginer un premier spectacle où, par exemple, le couple s'aimerait. Puis un suivant où ils ne s'aimeraient plus.
Ah oui.
Et puis un dernier où ils se re-aimeraient. Oui. Énorme.
Bien,
hein,
c'est
énorme.
Bien, ouais.
Attendez. Parce que j'entends déjà les mauvaises langues qui vont dire oui, c'est du déjà vu, c'est exactement le même concept que la trilogie 50 nuances de Grey. Alors pas du tout, a déjà promis Michel Larocque, pas de menottes, pas de fouet, pas de ça chez moi, enfin si, mais pas, enfin rien à voir avec le spectacle. Et puis pour les plus fins observateurs d'entre vous, ok, je le reconnais, vous aurez peut-être remarqué le très léger clin d'œil subtil effectivement à ces spectacles joués avec Pierre Palmade il y a quelques années, mais mon truc à moi ça n'a rien à voir du tout. Moi les personnages sont totalement différents. Dans mon texte à moi, la femme a été mariée deux fois avec le même homme, mais même la deuxième fois ça n'a pas marché, alors elle décide de se tourner vers un petit jeune, moi.
Ah,
elle est là l'idée.
C'est
ensemble,
la suite en fait.
Bon, ça je vous laisse l'interpréter. Ensemble ils vont être confrontés aux problèmes du quotidien, mais également au choc générationnel. Si ça c'est pas une création vraiment originale qui ne sort sur aucun succès existant, je soupçonne d'ici votre excitation, Michel Larocque. Alors je vous laisse triompher avec encore un instant au théâtre Édouard VII et retrouvez-moi dès que possible, je n'en doute pas, vous, moi et cette grande idée, j'en suis convaincu ou presque, ça va être brillantissime.
Très bien, merci. Je viendrai.
Je vous présente Léa Landau qui a des questions à vous poser, Michel Larocque.
Oui, Michel Larocque,
oui.
Encore un instant est une pièce que vous jouez donc aux côtés de François Berléand, on l'a dit, qui n'a pu être là ce midi. Alors je suis allée le voir pour qu'il me parle de vous et de la pièce. Vous me direz si vous êtes d'accord. François Berléand, bonjour. Bon, déjà, on est triste que vous ne soyez pas avec nous ce midi.
J'en ai rien à foutre.
Ok, ça a le mérite d'être honnête.
Je serai toujours comme ça.
Ok, alors je profite de cette honnêteté, François Berléand, pour vous demander si vous étiez fan du duo Palmade Larocque.
Ah bah non, mais c'est parce que ça n'a pas marché.
Là, je ne suis pas d'accord. C'est la jalousie qui vous laisse dire ça, François Berléand.
Il y a des gens qui pensent comme moi aussi.
Bon, ok. Alors, à mon avis, vous allez avoir des hashtags jaloux Berléand sur les réseaux sociaux.
Mais moi, je m'en fiche pour la bonne raison que je ne suis pas dans les réseaux sociaux.
Bon, alors parlons plutôt de la pièce encore un instant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette pièce, François Berléand ?
C'est du grand n'importe quoi.
Alors, le moins que l'on puisse dire, c'est que vous savez vendre votre pièce. Vous êtes le roi de la promo, François Berléand.
Je me contrefiche de savoir qu'un tel, un tel ou un tel va dire l'enfoiré, le sale chien, le connard ou je sais pas quoi.
Bon, je l'avais deviné. Et avec Michel Larocque, tout se passe bien au moins.
On s'écoute plus.
Mais pourtant, tout le monde s'accorde à dire que Michel Larocque est exceptionnel dans cette pièce.
C'est la première fois que ça arrive depuis 1789.
À 1789, carrément, elle ne les fait pas alors. Bon, bah, merci François Berléand. Et vous, Michel Larocque, en vrai, comment ça se passe la pièce avec François Berléand ?
Ça se passe génialement, mais François, c'est quelqu'un qui est un peu... comment dire ? Qui aime bien être franc et dire... justement, on a toujours des tas de pensées différentes et lui va choisir celle qui est la plus, comment dire, événementielle,
ouais.
pour la laisser transparaître. Et ça, j'aime ça chez lui, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement généreux, quelqu'un de très à l'écoute j'aime, c'est un bel être humain, voilà. C'est quelqu'un pour qui les autres comptent beaucoup.
Dans quelles circonstances vous pourriez dire à un homme encore un instant, Michel Larocque ?
Encore un instant, c'est pas vouloir que un très bon moment s'arrête. Donc voilà, c'est ça. C'est quand on est vraiment bien avec quelqu'un, on n'a pas envie qu'il s'éloigne. Et donc c'est à ce moment-là qu'on peut lui dire encore un instant. Profitons-en encore un instant.
Quelle est votre réplique préférée dans la pièce, Michel Larocque ?
Non, c'est il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, parce qu'il y a tellement de plans différents, mais en tout cas, j'aime beaucoup quand Lionel Abelansky veut me convaincre de jouer le rôle de la Du Barry dans une pièce qu'il a écrite, et comme je suis fatiguée, on lit et je lui demande de me jouer, de me raconter, il prend la voix de la Du Barry, donc c'est vraiment un bon moment, parce qu'il dit... encore un instant, monsieur le bourreau. Et, et je regarde toujours Lionel faire ça avec beaucoup de plaisir tous les soirs.
Et si François Berléand était là, il dirait quoi de vous et de la pièce, à votre avis?
Rien à foutre.
Merci, Michel Larocque.
Michel Larocque, vous êtes très active sur les réseaux sociaux?
Alors, en tout cas, il y a une action que je n'évite jamais, c'est la citation. La citation du matin. Voilà. Oui. Là, je la mets un peu plus tard.
Mais quand même.
Théâtre
tous les
oblige.
Jours. Hein.
Tous les jours. Ouais. Eh ben oui, mais je me suis. Mais c'était comme maintenant, c'est comme un devoir, c'est terrible. Parce
mais
que...
ça vous demande du travail.
Ben, il faut la chercher, bah ouais. faut qu'elle me plaise, je ne mets pas ce que je ne mets pas.
Si
ben
alors, des
après, j'ai des dealers de citations
ah
qui
ouais.
m'aident.
Ah oui ah. Ouais. Vous mettez beaucoup de trucs de développement personnel, vous êtes très là-dedans, vous êtes un peu mystique vous...
Non, mais c'est des bonnes questions qui me permettent de se remettre en question. C'est des bonnes questions à se poser parce qu'on a un peu tendance à assurer tout le temps, donc je pense que c'est pas mal de se remettre en question. Ça, enfin, en tout cas, ça fait du bien. Nous, on est dans un métier où on se remet en question tout le temps et on a beaucoup de chance, même si parfois on râle. Mais...
Ouais. Vous aimez le rap aussi?
Ah oui, j'adore le rap.
Et vous aimez quoi comme rappeur, Michel Larocque?
Non, mais j'aime l'énergie du rap. Et je trouve que ça me fait du bien.
Et vous dites aussi que vous détestez Game of Thrones. Vous dites, j'ai
l'impression que c'est
un crime de dire qu'on n'aime pas cette série. Moi, j'ai du mal à la regarder. Dès que je m'attache à un personnage, il meurt dans d'atroces souffrances.
Ok, alors en fait, je vais dire la vérité. Depuis, j'ai vu Game of Thrones, j'adore. Mais c'est parce que j'avais vu juste des extraits et que je devais dire j'aime pas pour un...
Ouais,
un et donc, voilà, j'étais un peu allée vers la facilité. Parce que tout le monde aime Game of Thrones.
Merci Michel Larocque.
Merci beaucoup, merci Anne.
Applaudissements pour Gauthier Capuçon.
Merci.
Bonjour Gauthier Capuçon.
Bonjour.
Alors vous êtes un violoncelliste international.
Oui, c'est un bien grand mot.
Ah ben non, c'est pas un bien grand mot. Quand on voit où vous allez, Saint-Paul aux États-Unis, Barcelone, Boston, Québec, Philadelphie, New York, Toronto, Valence, Bilbao, 29 mai, Kiev.
Vous avez pris la seule plage dans mon planning où je travaille.
je vois qu'il n'y a aucune date à Dunkerque. Néanmoins.
C'est incroyable cette carrière.
Mais on bouge beaucoup. Mais on a la chance de. C'est une immense chance de pouvoir voyager avec son instrument. Et
ouais, vous n'avez pas choisi le plus petit. Hein.
Non, alors ça, par contre, c'est vraiment galère. Ouais. Parce qu'on n'a pas l'impression, la seule fois de l'année, peut-être une fois par an, il m'arrive de prendre l'avion sans mon violoncelle. Mais c'est un
bonheur.
Ah ouais.
Il y en a qui disent pareil avec leur femme.
J'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose.
Mais vous ne le mettez pas en soute
ou... Non, jamais.
Ah, et ils vous le laissent passer parce que c'est gros.
Non, on a besoin d'acheter un billet.
Spécial.
Donc c'est assez onéreux.
Un billet
faire
pour le violoncelle.
On dit toujours, vous auriez dû faire de la flûte avec. Ben oui, effectivement.
Vous achetez un billet pour le violoncelle, il prend l'avion comme une personne réelle.
Et du coup, ça vous fait deux plateaux repas.
Plateau repas,
j'essaie
pas. Mentalité de Christine.
Sinon, c'est 20 km qu'il faut faire en jogging le lendemain. En revanche, je peux demander deux coupes de champagne.
Vous lui parlez à votre violoncelle? Il a un prénom? Je veux dire, vous avez une relation intime avec.
C'est une relation qui va faire bientôt 20 ans. Donc
même violoncelle.
Ouais, le même violoncelle.
J'imagine que vous devez tout le temps avoir peur qu'on vous le vole. C'est quand même très important. Ça,
non, parce que c'est comme une œuvre d'art, si vous voulez, une toile de maître.
Bah justement.
À part, non, mais je veux dire, à part un collectionneur qui va le garder chez lui et rien en faire, vous n'allez pas pouvoir le revendre. Donc il faut effectivement en prendre extrêmement soin parce que c'est une œuvre d'art, plus de 300 ans. C'est pour ça que dans l'avion, on ne peut pas le mettre en soute. Mais en revanche, il ne faut pas que ça devienne la psychose.
Alors vous, en fait, à 4 ans, vous commencez le violon et vous détestez.
Oui, mes parents m'ont donné un violon. Alors, je ne sais pas si j'ai voulu faire ça par imitation pour mon grand frère. J'ai complètement effacé ça de ma mémoire. Ce qui est certain, c'est qu'un gamin de 4 ans, il ressent tout. Le violon, j'ai détesté. Ils m'ont donné un violoncelle. Et immédiatement, j'ai encore cette mémoire sensorielle. J'ai adoré le violoncelle.
À 14 ans, vous partez seul étudier à Paris.
Ouais.
Et vous devez beaucoup à une de vos professeurs en Savoie qui vous a fait aller dans une famille. Vous avez rencontré votre future femme qui avait 15 ans.
Exactement. C'est elle qui m'a glissé, en fait, inconsciemment ou peut-être très consciemment. Annie Cochet, donc professeur de violoncelle savoyarde, qui m'a glissé dans le lit de ma future femme. Voilà, wow. Qui m'a accueilli à Paris, sa famille m'a accueilli.
À Paris
donc vous... Une famille de 6 enfants, donc voilà, un septième qui venait dormir
et
à
là,
la maison de temps
en temps.
Dès
que vous voyez votre femme, c'est le coup de foudre ou alors ça a été petit à petit, en sortant de la douche, vous la croisez le matin?
Non, on m'avait pas briefé sur le contenu de l'émission, là. La douche, j'étais pas au courant.
Mais les parents, quand ils ont appris ça, que le gamin qui s'hébergeait, il
se
était amoureux de leur fille.
Non, mais ils l'ont su seulement il y a 2 jours. Hein. Ah. Ils le savent.
Petit Capuçon, vous travaillez le violoncelle combien d'heures par jour?
C'est difficile à chiffrer parce que j'ai travaillé énormément d'heures quand j'étais plus jeune et je pense que c'est les années de construction, ces années entre, disons, 12 et 20 ans où je travaillais 6, 8, 9 heures par jour. Et c'est quand on construit la maison, hein, c'est vraiment brique après brique. Et puis après, c'est un travail qui se transforme. Quand on voyage, on a moins de temps peut-être de travail personnel, mais on travaille différemment, un travail plus peut-être intellectualiser sur une partition d'analyse.
Mais vous ne pouvez pas arrêter, j'imagine, quand vous partez en vacances.
Jamais.
En vacances.
Alors, j'arrête une fois par an. Je ne touche pas mon violoncelle pendant à peu près
5 minutes.
15 jours.
15
le problème,
jours,
c'est
oui.
qu'on est vraiment. Nous sommes des artistes, entre guillemets, mais on n'a pas la casquette sportif de haut niveau.
Et alors, j'ai une question d'ordre personnel, je peux?
Oui. Alors, après la douche, on peut y aller.
Non, non, mais c'est une vraie question que je me pose. J'ai eu une aventure avec un contrebassiste. Il y a tout un temps.
On était pas très loin de la douche.
J'ai hâte d'entendre la question. Oui,
non, mais,
je crains le pire.
Je sais pas qu'il nous écoute pas. Par contre, ma mère nous écoute, donc c'est un peu gênant, mais c'est pas grave. Et en fait, il ne savait absolument pas se servir de ses doigts. Mais pas du tout. Et du coup.
Du coup, ça, il s'est servi de son archer, c'était vraiment un peu limite.
Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que. Maintenant, je me rends compte de ce que je suis en train de dire, mais.
Alors, je ne sais pas comment vous dire, mais sans vexer monsieur, c'était peut-être le mauvais musicien. Alors,
mais j'ai pas l'impression que c'était comme. Je l'avais vu en concert et c'était vachement bien. Et en fait, j'ai l'impression qu'on vous apprend à faire quelque chose, mais que ça se dit.
On vous apprend pas à faire une autre. Bah écoutez, je vous donnerai le numéro de ma femme, vous pourrez en parler avec elle si vous voulez.
Il avait peut-être de l'arthrose à force.
C'est ça.
Merci pour cette intervention de haute volée, Christine Leroux.
Mais non, c'est une question que je me posais depuis longtemps.
Oh bah c'est bien.
C'est merveilleux. Un professionnel.
Bien.
Oui,
j'adore. Christine Leroux, justement, elle a des questions à vous poser.
Alors, et puis alors là, il a hâte du coup.
Ouais, j'ai hâte parce que si les questions, questions précédentes ne rentraient pas dans ce cadre.
Je suis gênée, je ne me rendais pas compte de ce que je disais. Bon, alors, ravie de vous voir parce qu'en vrai, j'adore la musique classique. C'est toujours un plaisir d'en écouter dans les ascenseurs ou quand la CAF me met en attente. En plus. Vous reprenez quand même Schumann, et moi j'adore les super-héros, Superman, Spider-Man, Schumann. Non, en vrai, sans rire, mon morceau préféré, je vous le dis, c'est la messe en si mineur de Bach. Je sais pas si tu connais Ben H. Ah non, c'est vrai que tout ce qui est mineur, le juge t'a dit d'arrêter. mais vous savez,
elle est très bonne.
Quand on est humoriste, on aime bien utiliser la musique dans les spectacles parce que c'est intemporel, universel, ancien. Traduction, c'est libre de droit et ça arrange tout le monde. Je voudrais proposer aux virtuoses que vous êtes une interview en suivant la gamme, donc une interview à votre portée pour chaque note.
Oh, joli. Vous êtes... C'est de haute volée. Ah
ouais. Est-ce que vous êtes Do comme docile ou dominateur ou Domino's Pizza, vous pouvez votre violoncelle est prêt à cacher une éventuelle surcharge pondérale.
Les deux premiers. Ah bah
d'accord.
Oui, pourquoi seulement l'un?
Vous êtes docile et dominateur, ça dépend de la personne que vous avez en face.
Ah ouais.
Ré comme
mais non,
ré.
Tu peux avec la même personne, tu peux être à la fois docile et dominateur.
Voilà. Encore...
Alors c'est un quiz, c'est pas une leçon de séduction.
Non mais on sent le vécu quand même. Hein.
Non mais parce que moi on m'a dit de préparer un quiz pour l'invité, on m'a pas dit de me faire engueuler. Mais alors, ré comme résigné, révolté ou résolument tourné vers la musique loin des préoccupations bassement matérielles de notre monde.
Ah, résolument tourné vers la musique.
Ah. Mi comme midi ou minuit ou les deux, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour vos voisins rapport à votre instrument. Votre instrument, le violoncelle, je veux dire.
Alors, si c'est le violoncelle, c'est plutôt midi.
D'accord. Fa comme farouche ou facile ou fatalement, ça dépend de la personne à qui vous avez affaire. Ouais.
La troisième.
Sol comme solitaire ou solidaire ou solvable. La musique, ça marche bien.
Ah, quand même, la plupart du temps solitaire. Hein. Je suis souvent seul en tournée.
La comme lascif ou lapin ou là tout de suite un peu gêné par ma question.
Là tout de suite un peu gêné.
Si comme Jean Sibelius, le compositeur, ou comme Sissi, votre fille, ou comme si on peut choisir les deux, vous choisissez les deux.
Oh, Sissi, ma fille.
Et Do comme Don Juan ou Don Quichotte, ou dommage que ce questionnaire touche déjà à sa fin.
Ah, j'ai envie de dire la réponse 2 et la 3. Don Quichotte, parce que c'est une des plus belles œuvres de Richard Strauss sur le roman de Cervantes.
Et la 3 par
le violoncelliste, le violoncelle interprète Don Quichotte. Donc c'est une œuvre dont on est très proche.
Merci Gauthier Capuçon d'être passé
Merci.
Nous voir.
Nous sommes très heureux de recevoir un collègue d'Europe 1, le grec le plus célèbre de France après Demis Roussos. Celui qui est à la fois The Voice et The Eye, The Look of and The Body. Je suis bilingue. Ce midi, notre invité est monsieur Nikos Aliagas. Hey.
Bonjour Anne Romanoff.
11h30.
Bonjour les amis.
Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
Et qu'est-ce que c'est que cette musique?
Moi je sais pas.
Je connais pas.
Bonjour Nico Saliagas, ou plutôt je devrais dire bonsoir, il est midi pour nous mais pour vous il est quelle heure? 23h?
C'est l'heure à laquelle je me couche en principe, ouais. Avec mon fils de 2 ans.
Depuis la rentrée vous êtes revenu à vos premières amours, à savoir le journalisme, puisque vous animez la manita...
Là.
Ils ne vous l'ont pas proposé à vous. Hein.
Hein,
la manitale pour Roumanie. Ça va lui faire tôt pour elle. Hein.
Ça m'arrive aussi.
Vous animez la matinale d'Europe 1 de 7h à 9h. Vous devez vous coucher avant vos petites filles.
Oui.
Du coup, vous faites des économies de resto, vous dînez dans les EHPAD vers 17h.
moi, j'ai un beau prétexte pour refuser toutes les sorties un peu gavantes. Et même ma femme qui dit, on n'est pas sortis cette semaine. Ouais, mais on fera ça ce week-end. Et puis le week-end, on est crevés, donc on dort. Voilà.
Vous la réveillez quand vous levez à 4h du matin?
Non, je rampe, en vrai.
Oui, mais il faut bien que ça sonne le réveil. Du coup, ça la réveille.
Oui, mais je mets en mode vibreur. Donc voilà. Ça la dérange pas quand ça vibre.
Elle aime bien quand ça vibre.
Non, ça va.
Ça la réveille quand même, mais elle n'est pas en colère. C'est ça que je veux dire.
On part sur un sujet bizarre, hein, là. Hein.
Non, je pars vraiment sur la pointe des pieds. J'essaie de ne réveiller personne. Et je prépare mes affaires comme les écoliers préparent leur cartable la veille. J'ai mon calbut, la chemise. Et je m'habille en silence dans le noir. Et généralement, je me casse la figure dans le salon ou un truc comme ça, je réveille tout le monde.
Quel but rouge ?
Oui.
Quel but rouge, toujours ?
Pas toujours, ça c'est uniquement pour les prime time.
Et en arrivant à Europe 1, il passe devant le bureau d'Anne Romanoff et là, pareil, il marche sur la pointe des pieds pour réveiller personne. C'est important.
Je ne voudrais pas vous faire flipper, Nico Saliagas, mais tous les matinaliers, la première année, prennent en moyenne 10 kilos.
Ouais.
Ils perdent leurs cheveux et se font quitter par leur conjoint.
Ouais.
Vous regrettez votre choix ?
Alors, mes cheveux, je les perds quand même. Les kilos, je fais gaffe parce que je fais un peu de pompe, un peu de sport. Et ma femme, moi, jusqu'à présent, ne s'est pas plainte de mes infidélités matinales.
Nico Saliagas, vous êtes apparu dans les années 90 alors que vous participiez à l'émission Union Libre, émission non pas de rencontre adultère ni reportage sur La République En Marche, mais ouais. Comme son titre pourrait le laisser penser, mais le programme qui traitait de l'Europe avec Christine Bravo à la présentation.
Oui.
Il y a une époque où l'Europe ne prenait pas l'argent des Grecs, mais leur en donnait pour être sur le plateau.
C'était en tous les cas une excellente école. 98, j'arrivais du journalisme pur et dur, je travaillais à Euronews pendant une petite dizaine d'années et Christine m'a dit, tu verras, tu vas prendre un autre métier.
Pas comme ça, tu verras.
Ouais. Hey, toi, connard, le grec, c'était ça. Et je lui ai dit, moi, Christine, je suis journaliste, je t'arrive en cravate, en blazer, je me souviens. Je ne ferai pas de choses qui me feront perdre en crédibilité. Au bout de 3 mois, je dansais en slip sur la table avec Cavana. Faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas ton eau. Tu ne sais pas ce que te réserve l'avenir, mais j'assume tout.
Et alors, Nico Saliagas, donc vous êtes grec, enfin...
D'origine.
Enfin grec. Non, parce que comme dirait Socrate, vous n'êtes ni athénien ni grec, mais un citoyen du monde.
Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Oui. C'est-à-dire que je suis né ici de parents...
C'est ça, vous êtes né à Paris. En fait, c'est une arnaque, votre grec attitude.
Oui, mais
vous êtes
pas
le grec le moins grec de France, mis à part les vendeurs de kebab dans Paris.
Oui. J'ai essayé de faire norvégien, personne ne m'a cru. Bon, je veux dire, je vais faire le grec. Non, mais la réalité, c'est que je suis né ici. Mes parents sont arrivés pour des raisons économiques. Voilà, on parle des migrants, des immigrés. Ils sont arrivés avec une petite valise. Ils sont rencontrés ici, chacun est arrivé... respectivement. Et ensuite, je suis né ici, je suis un enfant de l'intégration républicaine. C'est-à-dire que la France m'a aimé comme l'un de ses enfants. On ne m'a jamais demandé de renier le passé des origines de mes parents. On ne m'a jamais demandé de changer mon nom, mon prénom. Et c'est pour ça que j'aime ce pays et que j'aime la France et que je voudrais lui rendre ce matin.
Bravo. Alors là, franchement, j'ai qu'une chose à dire. Bravo Nicolas Aliagas.
Bien joué.
La Grèce, quand même, berceau de la civilisation qui a tout inventé, la démocratie, la philosophie, Nana Mouskouri, la sodomie entre amis.
Oh, bah, bah, bah. C'était une tradition. Ça faisait
quoi, Nana Mouskouri ?
Oui, aussi. Non, mais ils n'avaient pas. C'était pas un peuple homosexuel ou hétérosexuel. Les Grecs étaient un peuple sexuel qui considérait qu'il fallait à la fois laisser parler le corps et de temps à autre faire le point. Et au lendemain d'une orgie, d'un échange, etc., maintenant chacun reprend sa petite vie tranquille. Mais au moins, ils ne payaient pas de psy, eux.
C'est ça, en fait, je suis grec. C'est ça.
Eh ben, j'ai choisi de me mettre du bon côté de la table, vous voyez. Apparemment, là-bas, c'est. dirais, c'est un peu trop moderne pour moi.
Alors Nico, Saliagas, le matin vous êtes sur Europe 1 pour présenter la matinale. Le samedi après-midi, vous présentez 50 minutes Inside. Ouais. Le samedi soir, The Voice. Et puis The Voice Kid, The Voice Regular. Et pourquoi pas bientôt The Voice Senior.
Dites ouais. la voix. Parce que vous avez du mal avec le
The. Vous avez beaucoup de mal avec le The.
Pas du
dites,
tout.
Vous dites The.
Bah c'est The, ça. Il y a un TH.
On est obligé de changer de micro à chaque fois qu'elle parle anglais. Que...
Comment vous dites, Nikos?
The Voice.
Voilà. The Voice. Parce que vous mettez Voice. Ouais. The Voice.
C'est une dentale souple. Enfin, y a la dentale dure, c'est D. La dentale souple, c'est V.
Non, mais lui parlait pas trop de ses dents parce que ça lui a quand même coûté un sacré billet.
C'est un dossier.
Elle a pas encore fini de tout payer, donc.
Pas à crédit sur plusieurs années.
Ils sont terribles, dites-moi. Ils sont en forme. Grande forme, bravo.
Ce matin, c'est pas le journaliste qu'on a le plaisir de recevoir, c'est le photographe.
Le passionné de photographie, oui.
La photo, c'est votre passion. Vous avez toujours un appareil photo à portée de main. Vous photographiez tous les gens que vous rencontrez, pas seulement les people.
Oui, c'est une autre prise de parole. C'est une autre quête, peut-être. J'ai commencé à photographier il y a très longtemps. Et quand j'étais journaliste sur
Même
le terrain...
Même enfant, ça a commencé.
Oui, ça a commencé. Le constat de départ, c'est que tu réalises que le temps passe.
Vous êtes tombé un jour sur une boîte à photos avec vos parents jeunes. Mmh.
Ça m'a choqué.
Et vous êtes, à partir de ce jour-là, vous avez été anxieux.
Oui, parce que je pensais que les parents, les parents qu'on a quand on a 4, 5, 6 ans, ce sont les mêmes parents qui ne vont pas vieillir. C'est qu'on n'a pas la notion du temps. Donc quand je réalise que mes propres parents ont été des enfants, je les projette aussi avec un visage de grands-parents, ceux de mes grands-parents, donc ça me fait peur.
Vous étiez un peu bizarre, petit Nico Saliagas, que
j'étais bizarre.
Oui, vous preniez des photos imaginaires.
C'est vrai.
Comment on fait pour prendre des photos imaginaires?
J'observais les gens.
Beaucoup déjà.
J'observais les gens comme ça, je faisais clic-clac avec un faux appareil comme ça.
À un moment, votre père vous a pris en pitié quand vous avez 10 ans, il vous a acheté un vrai appareil.
Mais ça s'est vraiment joué comme ça. J'ai dit, il nous emmerde avec ces photos bidons. Tiens, prends un truc. Il va voir que c'est nul et il arrêtera. Et en fait, le soir...
C'est dommage, vous auriez dû faire l'avion comme ça. à choisir.
Avant de me coucher, je faisais une liste des gens que j'avais croisés et photographiés dans la journée pendant des années, encore aujourd'hui. Ne jamais oublier un regard. Je ne peux pas oublier un regard parce que c'est une première connexion, c'est une invitation, un échange. Et j'en apprends parfois plus dans un regard, dans vos yeux par exemple, que dans un long discours. Parce que je vois qui vous êtes.
Qu'est-ce que vous voyez dans...
Non, parce qu'après c'est nous. Après, on l'a pendant la semaine. Hein. Non, l'excitez pas trop, je vous en supplie.
Pensez aux collègues.
Doucement.
Non, mais qu'est-ce que vous voyez dans mes yeux, Nikos?
Doucement.
Je vois dans vos yeux, chère Anne, je vois une promesse.
Ah oui, ça on donne un peu. Alors ça, j'en ai vu beaucoup. Alors là, j'en ai vu plein. On les attend toujours. Vous pensez à nos tickets resto? Ah oui, les tickets resto, Anne.
Je vois une gamine. Je vois une gamine qui se défend en riant. Je vois une gamine qui observe le monde, qui n'est pas dupe. Je vois aussi, enfin je ne suis pas Madame Soleil non plus.
Est-ce que vous voyez la femme pleine de sensualité?
Oui, je la devine. Oui, parce que vous ne donnez pas tout de suite dès le premier rendez-vous, dès le premier échange.
Il faut creuser.
Il faut suggérer.
Il faudrait déjà qu'il y ait un premier rendez-vous déjà. C'est step by step comme on dit.
Nico Saliagas. Ben H, a quelque chose à vous dire, Nico
Saliagas.
Oui,
Anne, il y a encore 3 mois, Nico, c'était à mes yeux une immense star de la télé, un homme qui squatte mon salon depuis près de 20 ans, l'homme qui connaît tout le monde et que tout le monde connaît. Mais aujourd'hui, Nico, c'est aussi un collègue de bureau, un camarade de la machine à café, et je peux vous le dire désormais, un homme aussi simple avec Céline Dion qu'avec moi. La preuve, la dernière fois, vous m'avez croisé dans les escaliers, vous m'avez regardé, moi aussi, du coup, je vous ai regardé, et là, vous m'avez dit bonjour. Moi, je vous ai dit bonjour, et là, il s'est rien passé de plus. Vraiment rien. Chacun a continué sa vie, hein. J'ai pas demandé de photo, vous non plus, hein. Oui, parce que Nico, c'est la seule grande star, hein, qui a autant de chances de vous demander une photo que l'inverse. Mais ça m'a fait tout drôle de vous croiser, même furtivement comme ça. Nico, c'est quelqu'un qui, pour tout le monde, hein, mais pour ma génération, c'est particulier. Quand j'étais ado, moi, je vous écoutais plus que mes propres parents. Maman me demandait de ranger ma chambre, je disais non. Vous me demandiez de taper deux, pas de problème. Plus tard, j'ai grandi, j'ai regretté évidemment, hein. On était jeunes, hein. C'est derrière moi, tout ça, hein. tout le monde fait des conneries de jeunesse, et certains brûlent des voitures. Moi, j'ai voté pour Jean Pascal. Personne n'est parfait. Voilà. Voilà. Bref.
Moi
bref.
Aussi, j'avais voté pour lui.
Mais pourquoi on a fait ça? Pourquoi? Bref, Nikos, les années ont passé et depuis, bah, vous êtes devenu un incontournable dans le paysage, animateur apparemment accompli professionnellement, passionné par ailleurs la photo notamment, père de deux enfants. On vous sent heureux, équilibré. Une vraie question se pose alors. Pourquoi? Pourquoi choisir de se lever tous les matins à 3h30 pour recevoir François Bayrou? Entraînant du coup d'autres questions secondaires, hein. Pourquoi inviter François Bayrou? Ou encore, mais qui est François Bayrou? Vous allez me dire peut-être, bah, la matinale c'est le challenge, hein. Non, courir un marathon c'est un challenge. Mettre un réveil en pleine nuit pour interviewer Marcel Campion, c'est un pari qui tourne mal. Hein. Même bourré, moi j'irai jamais si loin. Et là, vous allez me dire la passion. La passion de l'actu, la passion de l'info. Mais bien sûr, cette passion qui vous animerait depuis toujours. Et là, je dis oui, Nico. Parce que non, Nikos, bah, ce n'est pas que Ibrahim Malouf, Jennifer et un standard téléphonique. Non, Nikos, c'est un journaliste. Depuis les brefs que vous découpiez seul la nuit chez Radio France pour payer votre chambre de bonne à vos débuts, les JT que vous avez présentés par la suite, votre bagage de polyglotte et cette gueule. Subtil mélange entre Julio Iglesias et Danny Briand. Oh, le charme, que calor. Tout vous prédisait. Tout vous prédisait un avenir à la PPDA, hein, aussi curieux, insatiable que charmeur au cœur de l'information. Et puis c'est le drame, Nikos Aliagas. Débauché par Christine Bravo tout d'abord, puis votre recrutement par TF1 ensuite, les années passent et le petit prodige de l'info se voit obligé de faire visiter la maison d'Elton John tous les samedis dans 50 minutes inside. L'homme de l'info est alors contraint d'enquêter sur les vacances 5 étoiles de nos stars préférées entre deux interviews complices avec Brad et Angelina, des copains finalement. Bref, celui qui devait devenir Jean-Pierre Pernaut sauce tzatziki devient alors peu à peu Jean-Pierre Foucault 2.0. Et au passage, la grande référence en matière de divertissement en France depuis bientôt 20 ans. Alors, il était temps de revenir aux premières amours. Ça vaut le coup de se lever à 3h30 pour faire ce qu'on aime. Et c'est ça, Nico. S'il fait ce qu'il aime, animateur, journaliste, écrivain, photographe, voire même doubleur dans Bob l'éponge. Oui, oui. Oui, le temps passe. Ça, ouais. Ouais, vous avez fait ça. Oui, le temps passe, oui, Nikos. Hein. Et force est de constater que vous avez décidé de ne pas le laisser filer, le temps. Et vous avez raison. Alors, la prochaine fois, même si le temps presse, si on se croise dans l'escalier, sachez que je serai ravi de prendre le temps de faire une photo avec vous. Merci de m'avoir écouté.
Merci, Nikos. Bravo, bravo, bravo.
Nikos Aliagas, quand vous avez lancé la Starac, ça a été très difficile au début. Vous avez été traîné dans la boue, moqué, oui. Ça ne marchait pas du tout.
Oui, évidemment, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux.
Oui.
Mais c'était déjà
vous
très violent.
Vous êtes fait lyncher.
Oui, il y avait des blogs. D'abord, j'étais nouveau, je n'étais pas du Serail. On disait non, mais il ne fait pas assez animateur, il fait trop journaliste. Comme quoi, hein, on ne sait jamais.
Et alors, un jour, vous avez une couverture de VSD très méchante.
Ah,
vous
je me souviens.
Vous êtes désespéré, vous allez dormir chez vos parents.
C'est vrai.
Ils ne vous disent rien. Et le lendemain matin, qu'est-ce qu'ils font?
C'est ma mère qui me dit, mais ok, tu t'es plaint, tu as enlevé tous tes doutes, maintenant tu vas te réveiller et tu vas aller faire ton travail et tu vas finir ce que tu as commencé, parce que dans la famille, on ne baisse pas les bras, parce que ton grand-père, pendant la guerre, est rentré du front blessé en boitant, il a mis 3 mois à rentrer chez lui, il ne s'est jamais plaint. Alors toi, tes petits problèmes d'audience, de trucs... La ferme et va travailler.
Ça fait relativiser.
C'était ma mère. Mais c'est vrai que c'était dur. Donc, quand c'était difficile, à chaque fois que j'ai des moments un peu durs ou des petits coups de pompe dans la vie, je vais chez moi, elle m'engueule et je repars. Il n'y a pas d'assistanat. Il n'y a pas de « Oh, je te comprends. Oh, mais c'est trop injuste. Non, tu vas, tu finis ce que tu as commencé et la ferme. »
Moi, ma mère, elle fait presque pareil, sauf qu'elle, elle vient chez moi, elle m'engueule et elle reste.
mais tu comprends.
Christine Bérou a des choses à vous dire, Nikos Aliagas.
Oui, parce que...
Bon. Chère Christine,
oui. Ah,
quelle joie de vous voir.
Non, parce que là, c'est un petit peu comme revoir un ex. Donc, en fait,
ah bon?
Ah oui, non, mais voilà. Ah. Parce que, voilà,
balance ton grec.
Non, parce qu'on ne travaille plus ensemble, mais je vais lui montrer que je m'en sors très bien sans lui. Alors, Nikos, est-ce que vous vous rappelez de moi?
C'est Monique, votre prénom.
Oui, non, c'est Christine, on a travaillé ensemble. Vous étiez un super patron, Nikos, toujours à me dire « Je suis là pour toi, tu peux m'envoyer un SMS à n'importe quelle heure, au 72 500, 50 centimes, je vous envoie un SMS. » Non, mais c'était un privilège, hein, de bosser avec vous, qui avez interviewé toutes les plus grandes stars, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep. Qui vous a le plus impressionné?
Jacques Martin.
Alors, vous êtes un grand journaliste, vous parlez 4 langues, français, Facebook, Instagram, Twitter. Et toujours chez vous de la bonté, de l'écoute.
J'aurais pu être prêtre.
C'est vrai. C'est vrai, on voit beaucoup de générosité dans votre dernière expo photo. Alors, vous exposez des portraits de gens croisés en Grèce. Très différent de votre précédente expo où vous aviez photographié des Grecs croisés dans leur pays. Et encore, très différent de votre expo encore d'avant, vous aviez photographié dans leur pays d'origine des gens nés en Grèce. Voilà, vous aimez le changement. Vous avez déjà rêvé de changer complètement de thématique et de photographier quelqu'un complètement nu ?
Jean du Jardin.
Je comprends. Et là, j'imagine Jean du Jardin nu et je me sens pas très bien.
Monique.
Pardon, je me ressaisis. Alors Nikos, vous avez rendu la philosophie grecque encore plus populaire qu'elle ne l'est, parce que là je voyais la déesse de la victoire chez vous, elle s'appelle Niké.
Oui.
Et on a pu entendre
avec un K.
Voilà, on a pu ce week-end Mélenchon lui rendre hommage, hein, il scandait à tout va, allez tous vous faire niquer. Ah là là. Qui rêveriez-vous de voir nu sous une toge?
Jean du Jardin.
D'accord. En tout cas, moi je dis Nikos Aliagas président, parce que vous êtes un bon photographe et ça c'est la preuve que vous savez tenir vos objectifs. Alors comme vous le voyez, ma nouvelle patronne c'est Anne. Alors vous diriez que vous avez quoi comme point commun avec elle?
Caleçon rouge, porte-bonheur. Sans caleçon rouge, j'y arrive pas.
Ah, oui. En tout cas voilà, merci beaucoup Nikos.
Bonsoir Monique.
Et maintenant c'est le moment que vous attendez tous.
Europe 1, Anne Roumanoff. L'histoire de la semaine.
Avant de se quitter, Nikos Aliagas, je vous propose de participer à l'histoire de la semaine. Le principe est simple. Lundi, je commence une histoire. Nos invités de la semaine la complètent les uns après les autres jusqu'au vendredi, avec chaque fois un mot obligatoire à tirer au sort dans ce chapeau.
Ah, d'accord. Ça y est. Mains au pluriel.
Les mains. Et donc, hier, c'est Pascal Obispo qui a commencé l'histoire et c'est à vous de la continuer. Et l'invité de mercredi l'a continué.
Il a dit quoi, Pascal, hier?
On va écouter.
D'accord.
L'homme se pencha vers la femme et lui murmura à l'oreille.
I wanna hold your hand, ball.
I wanna hold your hand, c'est une chanson des Beatles qui signifie j'ai envie de te prendre la main. Il regarda ses mains. Elles étaient écorchées, fatiguées. Elles avaient ce je ne sais quoi qui lui rappelait sa grand-mère. Voilà.
Et notre invitée qui a été égérie de L'Oréal, elle a posé pour Ralph Lauren, Calvin Klein, Gucci. Elle a fait les couvertures de Vogue, de Elle avant d'enchaîner les rôles au cinéma. Aujourd'hui, elle vient nous présenter son documentaire Abino Africa, diffusé ce soir sur TV5 Monde. L'Afrique aime la mode et inspire les créateurs, mais comment se porte la mode en Afrique? Elle va nous en parler. Applaudissements pour la magnifique Noémie Lenoir. Bonjour Noémie Lenoir.
Bonjour.
C'est nouveau pour vous de réaliser des documentaires?
C'est la toute première fois, oui. Je l'ai réalisé avec Antoine Rivière.
Ouais.
Et je l'ai écrit avec Alexandra Ngan, qui habite au Cameroun, et Jean-Christophe Syriac.
Vous aviez envie de parler de la mode en Afrique, de ce qui se passe dans la mode en Afrique?
Exactement, parce que j'ai remarqué depuis quelques temps que l'Afrique, la mode africaine était tendance. Et je voulais vraiment montrer quelque chose, une autre facette de la mode africaine, et pas les boubous que tout le monde pense... que les Africains portent. J'avais vraiment envie de montrer quelque chose d'autre et du coup, de partir du coton,
ouais,
d'aller chez les tisserands, d'interviewer des stylistes et vraiment rentrer dans le fond du sujet.
Parce que ce qui vous choque, c'est que en fait, en Afrique, il y a la matière première qui vient du coton.
Le coton
est exporté.
Exactement.
En Chine et on fabrique des vêtements qui sont revendus aux Africains après.
Exactement.
Vous trouvez ça dommage?
Carrément,
quoi.
Où les Africains rachètent le coton qui est déjà tissé et filé. Il est à 95% exporté,
ouais,
et il est à 100% bio.
Oui, d'ailleurs, vous montrez une usine où, à l'époque, exactement, on travaillait le coton. Il y avait 4000 personnes qui travaillaient dedans en Afrique et qui, donc, sont toutes perdues leur travail.
Et il faut savoir qu'il y en avait encore 40 dans les années 2000.
Ouais.
Et donc, du coup, c'est des emplois en moins. Donc, du coup, des gens qui s'exportent.
Oui, mais
et
à
qui
part
partent...
faire ce constat, on peut faire quoi, en fait? Votre documentaire,
il faudrait
certainement...
refaire toute l'infrastructure. Oui,
il faudrait qu'il y ait une vraie volonté politique de faire ça.
Exactement. C'est pour ça que moi, je suis française et du coup, je ne veux pas m'initier et dire ce qu'il faut faire. Donc, du coup, je laisse vraiment la parole
aux Africains.
Ouais. Voilà.
Vous avez interviewé des stylistes, des créateurs.
Exactement. Des femmes d'affaires qui font des tissus d'ameublement, comme Aïssa Dion, et qui expliquent leur point de vue et ce qu'il faudrait faire. Mais par exemple, M. Alfadi, il crée une école au Niger qui forme les stylistes, qui forme les mannequins et qui forme tout ça. Parce qu'il faut former aussi. Parce que comme ces personnes ont arrêté de travailler il y a des années, et ben du coup le savoir-faire se perd. Ouais.
Et ce qui est génial, c'est que c'est une manière de rendre à César ce qui appartient à César, parce que même Jean-Paul Gaultier dans votre documentaire dit qu'en fait il s'est inspiré de toutes les modes et tendances africaines.
Et en fait, j'ai remarqué depuis des années, quand j'ai commencé la mode, moi j'avais fait le défilé de Monsieur Gaultier et j'ai vu Monsieur Yves Saint Laurent qui mettait des femmes noires sur les défilés, et donc du coup je voulais rendre à César ce qui appartenait à César, et justement de montrer aussi aux Africains, parce qu'il était diffusé hier en Afrique, montrer aussi qu'ils inspirent, parce qu'ils oublient aussi qu'ils inspirent. Ouais. Il est là le problème. Et il faut aussi qu'ils sachent aussi qu'il faut consommer africain, parce qu'ils consomment souvent,
souvent frontière,
en France, qui est danois, je crois. Ouais.
Et c'est une reconversion pour vous, Noémie Lemoine, d'être réalisatrice de documentaires. Vous aimeriez en faire d'autres ou c'était juste ça parce que ce thème vous intéressait?
Pourquoi ça? Parce que ça fait 25 ans que je suis dans la mode. Et je sais de quel sujet je parle, de quoi je parle. Je peux m'exprimer sans problème dessus. Je sais ce qui se passe dans la mode. Et je voulais vraiment aller dans le fin fond de la mode. Parce qu'on voit toujours les paillettes, Noémie Lenoir avec ses belles robes somptueuses sur le corps. Mais il faut savoir aussi que la mode peut créer des emplois. Dans le monde entier, ça peut créer des emplois. Et donc, du coup, je pense que je suis apte à parler de ça.
Et vous, créez votre marque, vous y avez jamais pensé, Noémie Lenoir?
Ben, pour l'instant, j'ai 40 ans, j'y ai pensé, j'ai essayé, mais c'est un business. C'est pas que savoir coudre ou savoir dessiner. Il y a toute une infrastructure aussi pour ça.
Quand je vous vois si ravissante, Noémie Lenoir, je me demande pourquoi vous faites pas plus de cinéma.
Je sais pas.
Vous aimeriez? Parce que vous avez fait quelques films.
Oui, j'ai fait, mais je dis toujours, on me dit oui, Noémie, on te présente comme actrice. J'ai fait surtout pour moi, à mon niveau. Je sais, ça ne va pas plaire à mon meilleur ami qui dit arrête, Daniel, tiens. Mais,
c'est qui votre meilleur ami?
Nabil Arlo.
Qu'est-ce qu'il dit? Et comment il parle?
Arrête de dire ça. Et donc, du coup, je dis, j'ai fait de la figuration dans les films.
Non, quand même.
C'est vrai, je ne suis pas Julia Roberts, je n'ai pas fait des films qui ont pu montrer ce que j'avais fait dans le ventre, en fait.
Ouais.
Donc, du coup. Mais je peux pas me faire appeler actrice, c'est pas parce qu'on est dans un film.
Et pourquoi pas faire un film sur la mode maintenant, avec comme toile de fond la mode, mais
il y a Zoolander qui était pas mal. Vous souvenez de Zoolander?
Ouais, bien sûr. Non, mais c'est vrai, pourquoi pas. En tout cas, le documentaire est super bien réalisé, les images sont sublimes.
Oui, Antoine Rivière est le réalisateur aussi. Il est avec moi sur ce documentaire.
Et c'est vous qui faites la voix off, Noémie Lenoir.
Ouais. Vous avez vu comment je parle?
Ouais, en plus la voix est vachement sexy.
J'ai voulu faire un côté romantique et un côté vraiment.
Montrer, faites entendre aux auditeurs comment vous parlez.
Une voix posée.
Nous sommes en route pour le Sénégal, Dakar, ville portuaire.
Attendez, Laurent Barra ne sait plus où il est là.
La table bouge.
Qu'est-ce que c'est pas vrai ça?
Non,
n'écoutez pas.
Il faut faire attention, je dois être sérieuse. Là, si on parle là-dessus, ça va pas.
Vous faites toujours beaucoup d'effets aux hommes, Émile Lenoir, non?
Bah ouais. Écoutez, j'en joue un peu des fois.
Ouais. Franchement, je suis pas épaté.
C'est comme moi.
Attendez. Regardez, ça excite quand même. Hein.
Émile Lenoir, vous avez eu un début. Vous êtes né en banlieue, à Gif-sur-Yvette. Père électricien, maman femme de ménage, origine corse, belge, réunionnaise, malgache.
Ouais, ça fait peur. Hein.
Et après, vous êtes repéré par un ancien mannequin de l'agence Ford quand vous achetez des timbres dans un bureau de poste.
Oui, exactement, à Gif-sur-Yvette.
Vous aviez quel âge?
J'avais 15 ans.
Ouais.
Vous achetez des timbres et qu'est-ce qui se
passe? Et donc, du coup, elle vient me voir et elle me dit « Je vous trouve magnifique, j'aimerais beaucoup vous présenter à une agence qui s'appelle Ford. » Et moi, avec mon petit accent de banlieusard, je dis « Ouais, c'est ça, ouais. » Et donc, du coup, je vais voir ma mère et je fais « Ouais, je mens. » Il y a une meuf qui m'a attrapée, qui m'a alpaguée, qui m'a dit « Je devrais être mannequin. » Et le lendemain, on était dans le train RERB pour aller à 9 rue Scribe sur Paris. Il y a plein d'histoires comme ça, je peux raconter. En fait, j'ai réussi à vivre de bonheur en me satisfaisant de ce que j'ai.
Est-ce qu'on peut être heureuse célibataire, Noémie Lenoir? Parce que c'est la question qu'elle se pose.
Oui, je suis célibataire, on peut être heureuse.
Je me dis, c'est spontané.
Eh ben, il a faim, celui-là.
J'aime bien parce
vous êtes célibataire, Noémie Lenoir?
Ouais.
Ah ouais?
Ouais.
Mais bien sûr.
En fait, je me consacre beaucoup à mes enfants, donc je laisse pas trop le temps à un homme de rentrer dans ma vie.
J'ai pas énormément de temps non plus.
Non, mais il faut rencontrer l'âme sœur. Et puis même, il faut aussi penser à soi. Et on n'est pas obligé d'avoir quelqu'un dans sa vie. Ouais, forcément. C'est
vrai. Moi, je dis ça, on me critique.
Moi, j'aime me lever. J'ai jamais habité avec un homme, par exemple.
Oh, c'est vrai.
Mais moi, je dis ça, moi non plus. Mais moi non plus.
Non, mais c'est vrai. Jamais. J'ai vécu pendant 6 mois avec quelqu'un et ouais, ça n'a pas marché.
Ah ouais.
J'aime me réveiller le matin et me dire
je dois rien à personne.
Je peux faire ce que je veux. Ouais. Je peux être moi-même.
Ah,
et beaucoup de temps, beaucoup dans ma vie, j'ai voulu, par exemple, le matin, je devais me maquiller pour me sentir bien aux yeux de l'homme avec qui j'étais. Je me maquillais quoi.
Avant qu'il se réveille.
Avant qu'il se réveille.
Pour, alors que ça me dérange pas du tout.
Et maintenant, je m'en fous. J'ai l'impression de parler avec des potes et donc du coup, j'oublie que je suis un homme.
Vous prenez plus la
c'est
tête.
Très perturbant. Quand Noémie, arrête de raconter ta life.
Ou quand vous dites célibataire, c'est célibataire, célibataire ou bien il y a des pauses?
Non, célibataire, célibataire.
Comme moi.
C'est un signe.
J'ai trouvé la femme de ma vie.
Laurent Barra a des choses à vous dire, Noémie Lenoir.
Allez-y. Allez, Laurent, je vous écoute.
Effectivement, Noémie Lenoir, j'ai adoré votre documentaire. Pourtant, je dois vous l'avouer, quand la production m'a envoyé le lien pour le visionner en avant-première, en vue de l'écriture de cette chronique, je me suis tout de suite dit « Et allez !» Encore un énième documentaire sur la mode. Vous savez, ce genre de documentaire mettant en scène des mannequins toutes plus sublimes les unes que les autres, dont la perfection des corps peuvent mettre en péril l'équilibre de nos couples. Avec cette question à laquelle nous, les hommes, avons toujours été confrontés après le visionnage de ce genre de reportage. Chérie, honnêtement, tu trouves que j'ai grossi? Et là, les gars, on n'est pas du tout bon dans la spontanéité. Non, ma puce, tu as même maigri. Enfin, tu as maigri plus du haut que du bas, mais tu as maigri. Tu es comme la moutarde, tu es fine et forte à la fois. Et oui, ce fameux complexe de rondeur imposé par le diktat de la mode. Complexe exacerbé le samedi après-midi dans les rayons lingerie des grandes surfaces, dans lequel vous nous traînez irrémédiablement, mesdames, en espérant y trouver le morceau de tissu qui vous rapprochera le plus de ces top modèles exposés sur papier glacé. Avec l'épreuve de la cabine d'essayage. J'en profite d'ailleurs pour passer un petit message. Mesdames, arrêtez de nous demander de vous accompagner à les cabines d'essayage. C'est une torture. C'est l'île de la tentation. Derrière tous ces rideaux, il y a toutes les femmes à poil du rayon. Et sur une sorte de petit pouf en sky central, t'as tous leurs mecs assis en train de regarder leurs chaussures. En évitant, si possible, toute fuite oculaire vers un autre rideau, celui de sa copine. Enfin bon, bref. Revenons plutôt à votre documentaire, Noémie. Documentaire différent, novateur, dont l'originalité m'a poussé, moi aussi, à faire une chronique dans laquelle j'éviterai de vous faire l'affront de parler encore et toujours de votre beauté incroyable. Mais plutôt, parlez de la beauté de votre travail, car Abinou Africa mérite la lumière, tant il est surprenant, profondément humain. Il nous rappelle que le talent, la créativité, n'ont ni couleur, ni frontières. Et qu'il suffit parfois d'un regard curieux, bienveillant, sur des gens que l'on a parfois tendance à oublier, pour changer les choses. Ce regard lumineux qui vous caractérise tant, et qui a fait tellement de bien à notre société atteinte de jaunisse aiguë. Alors bravo Noémie Lenoir, pour cette mise en lumière d'une Afrique débordante de talents souvent ignorés. Continuez de tendre la main, de sortir de votre zone de confort, car au-delà de votre magnifique carrière, vous êtes une grande dame. Et à la différence de ce que je disais à mon ex dans la cabine d'essayage, cette taille vous va à ravir.
Merci beaucoup.
Merci.
Ah, tu vois, quand tu veux, tu sais parler aux femmes.
Merci.
Merci beaucoup.
Vraiment.
C'est un plaisir.
Ça me fait vraiment plaisir.
Merci, c'est sincère, je l'ai vu. Parce que c'est un très beau documentaire.
C'est ce que je voulais mettre en avant, justement, dans ce documentaire. Je voulais m'effacer et je voulais vraiment pas montrer cette facette de mannequin que j'ai depuis 25 ans. Je voulais vraiment aller dans le fond du sujet et faire parler les gens.
C'est très réussi, en tout cas. Merci, Noémie Lenoir, d'être passée nous voir.